Déradicalisation après la mise en place d'un numéro vert 0800 005 696 et de cellules de prévention, eh bien le gouvernement s'apprête à ouvrir son premier centre de déradicalisation début 2016. Autour de la table des mots de l'info, Brigitte Juyer-Bibou, psychanalyste à l'association Entre Autres, qui tente notamment de décrypter les phénomènes de radicalisation sur le terrain. Bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Parmentier du service police-justice de France Info. Bonjour.
Bonjour.
Sophie, pour qu'on soit clair, les centres de déradicalisation, beaucoup en parlent, mais est-ce que ça existe au moins et qu'est-ce que c'est ?
Alors non, pour l'instant, ces centres de déradicalisation sont toujours à l'état de projet. Le Premier ministre Manuel Valls a dit néanmoins, après les attentats du 13 novembre, que le projet était quasiment finalisé. On en est à choisir le lieu. Il y aurait deux centres de déradicalisation qui ouvriraient au début de l'année prochaine. 30 places dans chaque centre. Dans le premier centre, il y aurait des volontaires, des gens par exemple qui ont été endoctrinés mais qui ont été interpellés avant de se rendre en Syrie, ou peut-être par exemple des femmes qui se sont rendues en Syrie mais pour accompagner leur mari, qui ne sont pas allées dans des camps d'entraînement, qui sont rentrées, qui sont de vrais repentis. Elles pourraient être volontaires dans cette première catégorie de centres. Ce premier centre, et dans le deuxième centre de déradicalisation, au contour un peu plus flou pour l'instant, il y aurait des gens uniquement envoyés sur décision judiciaire. Dans les deux centres, en tout cas, les jeunes radicalisés auraient un programme de 10 mois, un suivi individualisé avec essentiellement des psychologues, des éducateurs qui travailleraient sur la réinsertion sociale, notamment sur les valeurs républicaines. Et le week-end, eh bien, les jeunes gens pourraient rentrer chez eux, ils seraient libres, ils seraient reconnectés avec leur famille le temps du week-end.
Effectivement, on parle donc bien de projet, Brigitte Juyer-Bibou. L'arrivée de ces centres, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Comment vous vous situez par rapport à ces projets ?
Oui, alors on encourage complètement l'arrivée de quelque chose justement qui prendrait en charge ce phénomène. Moi, ce que j'entends et qui me paraît très important, c'est qu'il y ait au moins deux centres différents.
Oui.
Celui de la libre adhésion, où on pourrait effectivement faire un travail de terrain extrêmement important. Et puis le centre sur décision judiciaire, donc je maîtrise un petit peu moins bien. On pourrait penser que ça représente un centre un peu plus fermé, j'imagine. Mmh. Et là, c'est vrai que nous n'avons pas encore tous les détails qui nous permettent de dire si ça pourrait être opérationnel et efficace, surtout.
Mais effectivement, les deux faces pourraient se compléter, en tout cas.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est plutôt bien pensé.
Mmh.
En tout cas, car il y a des publics et des profils extrêmement différents, je pense qu'il faut envisager des réponses différentes. Ça, nous y tenons beaucoup à l'association. Depuis un an qu'on travaille, un an et plus, un an véritablement avec des populations touchées de près ou de loin par ce phénomène, on a une première chose à dire, c'est qu'il faut vraiment distinguer les profils. Il y a
D'accord.
plein de profils.
Bah justement, quel âge ont les radicalisés que vous avez en face de vous ?
On peut aller entre 14-15 ans jusqu'à 30 ans, 35 ans.
D'accord.
Donc ce sont des jeunes gens,
plutôt
on
jeune.
Peut dire que ce sont des publics jeunes, mais pas forcément adolescents simplement.
C'est
parce
ça.
Que souvent on entend l'idée que ce sont plutôt des adolescents. Effectivement, les adolescents sont fragilisés, la crise d'adolescence elle-même crée une forme de faille identitaire, etc. Donc c'est un terrain favorable. Mais nous n'avons pas seulement que des adolescents, et je crois que dans les signalements, il n'y a pas du tout d'adolescents. On est à peu près sur les mêmes proportions que les chiffres nationaux qui tournent à peu près autour de 16%, 16-20%.
Qu'est-ce qui fait basculer un adolescent ou un adulte, un trentenaire, vers cette radicalité ?
Oui, alors déjà, la bascule, pour nous, il nous semble, pour tous les cas que nous suivons, que ce n'est pas une bascule abrupte, mais bien un processus.
D'accord, c'est pas du jour au lendemain.
C'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui met pas mal de temps.
Mm-hmm.
En tout cas, dans tous les cas que nous avons reçus, y compris de parents, puisque à l'association, on reçoit des jeunes, mais on reçoit aussi les parents dont les enfants ont pu partir en Syrie, sont aujourd'hui morts ou vivants encore là-bas. Donc on a pu, si vous voulez, remonter le fil des processus en cours. Et pour certains, là, nous recevions encore une maman qui nous disait « En fait, mon fils a avait connu ce recruteur, bon, connu de tous à Nice, il y a 10 ans au moins. Donc ça veut dire que le travail sur, notamment là c'est un quartier de Nice, mais pas seulement sur les quartiers, le travail de recrutement par différents biais ne se fait pas du jour au lendemain. Et la décision par exemple d'un départ, alors après il faut être précis sur ce qu'on appelle radicalisation, mais pour ce qui est des départs par exemple, ne s'est pas fait du jour au lendemain.
D'accord.
Même si ça donne l'impression de l'extérieur.
On peut préciser peut-être que vous travaillez dans les Alpes-Maritimes, effectivement il y a eu énormément énormément de départs avec un recruteur, je ne sais pas si c'est à lui que vous pensez, mais en tout cas, il y a Omar Homsen qui est donné pour mort en Syrie par les services de renseignement. Il serait mort cet été et en effet, il était l'un des principaux recruteurs français. Il aurait conduit au départ de nombreux jeunes, notamment dans les Alpes-Maritimes.
Comment fait-on pour lutter contre cette radicalisation? Par exemple, est-ce qu'on s'appuie sur la religion? Est-ce qu'on s'appuie sur l'islam? L'islam alors, modéré en tout cas.
Alors, je crois qu'il est très important, c'est ce que je disais précédemment, de définir ce qu'on appelle radicalisation et surtout les degrés de radicalisation. Je crois qu'après un an de terrain, on peut dire qu'on ne donne pas la même réponse selon suivant les profils. Suivant les profils. D'où l'idée du centre avec des profils séparés qui me semble extrêmement importante. Donc on est en train, si vous voulez, d'affiner effectivement tous ces profils afin de construire ce qu'on appelait au début et qu'on va continuer d'appeler peut-être des contre-discours qui soient adaptés à chacun d'entre eux. On a par exemple sur notre cellule plusieurs jeunes filles que nous suivons et qui, elles, ont été, entre guillemets, très vite déradicalisées. C'est-à-dire que l'idéologie, on va dire, politico-religieuse, est très vite tombée. Parce que finalement, on pense qu'elle n'était pas du tout radicalisée. Ça tenait sur plus grand chose.
Ouais.
Ça tenait sur peu de choses. Pourtant, on continue de les voir parce que ce sont des personnes qui connaissent des blessures ou des failles subjectives qui sont des proies idéales ou faciles pour ce genre de recrutement.
Et sans la famille, est-ce que cette mission peut fonctionner? Cette mission de réinsertion quelque part hein?
Oui, alors nous, on tient beaucoup à la présence de la famille. Donc la cellule est construite avec la présence, c'est-à-dire des entretiens avec la famille. Donc les cellules de contre-radicalisation, si vous voulez, sont construites avec présence de 2 psys au moins. Donc il faut qu'on soit au moins 2. Un idéologue, politologue qui intervient au moins 1 fois sur 3 sur nos cellules pour affiner les questions géopolitiques, voire religieuses. On travaille aussi à l'occasion avec des imams.
D'accord.
Voilà. Nous recevons les jeunes dans ce cadre-là et nous recevons en plus ou avec, selon les cas, on doit être très très adaptable dans nos dispositifs, les parents. Et il est évident que les parents jouent un rôle tout à fait prépondérant.
Sophie Parmentier, on a beaucoup parlé de radicalisation en prison, hein, dans les médias, chez les politiques. Comment ça se passe?
En fait, par rapport à la radicalisation en prison et surtout la déradicalisation, j'ai pu me rendre il y a quelques semaines à la prison d'Oni, où il y a un travail qui est fait avec 2 groupes de détenus qui ont rencontré pendant 6 semaines des psychologues pour essayer de lutter contre cette radicalisation avec un travail individualisé, avec des groupes de parole. On essaie de créer un choc en fait en mettant ces détenus face à des victimes du terrorisme. Et par exemple, il y a Latifa Imziaten, vous savez, la mère d'une des victimes de Mohamed Merah, qui est allée dans cette prison d'Oni face à des détenus qui ont été émus par ses propos. Et donc, dans les prisons françaises, il y a cette expérience pour l'instant à Oni où on essaie en fait de reconnecter des détenus radicalisés à des valeurs républicaines. Et pour l'instant, les quartiers dédiés qui avaient été annoncés par Christiane Taubira ne sont pas encore mis en place partout. Il devrait y en avoir, comme les centres fermés qu'annonce Manuel Valls, il devrait y en avoir en 2016 à Oni, à Fleury notamment et à Fresnes.
Brigitte Juillard-Bibou, dernière question. Est-ce que la France ne revient pas de très très loin en matière de lutte contre la radicalisation?
Peut-être, oui, en effet. En tout cas, il y a un réveil qui est urgent et des prises de conscience extrêmement importantes. Ce qu'on essaie de faire par nos actions de formation également. Quand on compare peut-être avec d'autres pays, c'est vrai que je me suis retrouvée souvent à des tables avec des équipes anglaises qui avaient pris peut-être la mesure de la situation un peu avant nous. Ils avaient connu malheureusement des attentats bien avant nous. Donc oui, il me semble qu'il y a une nécessité et une urgence à prendre la mesure de l'ampleur en fait de la situation et de sa difficulté. Et c'est ce qu'on essaie de faire vraiment par des actions de formation. Et on trouve que en effet, éveiller les consciences n'est pas quelque chose de simple, ça ne se fait pas en un jour et c'est pas forcément gagné là tout de suite.
Oui, c'est pas superflu surtout. Brigitte Juillard-Bibou, psychanalyste à l'association Entre Autres, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci Sophie Parmentier. Les mots de l'info, c'est sur France Info et franceinfo.fr.